Bon, après ces incidents techniques qui font que le premier quart d'heure du cours a été perdu pour la postérité, nous avons donc un autre problème, savoir pourquoi est-ce qu'il faut faire cette halakha de Mor Geoula Litfila, c'est-à-dire d'accoler la bénédiction de Gaal Israël à la Gaal Israël, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie du schéma, ça ne fait pas partie de la. Et pourquoi il faut coller la. Oui? Baruch HaTashem, qu'est-ce que ça veut dire? De quelle bénédiction? Gal Israël. Baruch HaTashem, Gal Israël. Alors nous allons traduire pour l'instant, béni sois-tu Hachem. Gaal Israël. Alors, il y a un petit problème. Si ça veut, ça devrait pouvoir dire qui a sauvé Israël, qui a libéré Israël. Mais dans ce cas-là, en hébreu, ça devrait se dire Asher Gaal Israël. Il y a une préposition que, n'est-ce pas? Que en français, en hébreu, ça se dit Asher, ou bien She. Donc on dit She Gaal Israël. Ou bien, si c'est un présent, on devrait dire Goël Israël, sauveur ou libérateur d'Israël. Et on ne dit pas ça, on dit Gaal. Ce qui est incorrect sur le plan grammatical. En fait, on peut lire ça, comme le faisait remarquer Nechama Leibovitch, qui était une grande commentatrice de la Torah. Il disait que Gaal, c'est comme un nom de métier, celui qui a le métier de sauver. C'est comme Sapar, le coiffeur, Napar, le forgeron, Nagar, le menuisier, Gaal, oui, une profession. C'est celui qui fait profession de sauver Israël. Comment le quoi? Il n'y a pas de Haïdia, non. Avant un métier ou une profession, par exemple, un coiffeur se dit Sapar. N'est-ce pas? Donc Gaal, ça veut dire un sauveur de métier. C'est-à-dire celui dont le métier. Baruch HaTashem Gaal Israël, celui dont le métier est, ou la profession est, d'être le libérateur d'Israël. Non, non, tu as entendu qu'on dit cette phrase à voix basse. Tu l'as entendu dans des minyanim de nos frères ashkénazes. Dans les minyanim de nos frères séfarades, c'est dit à voix haute. La raison est la suivante. C'est qu'étant donné qu'il faut apposer l'un à l'autre, si c'est dit à voix haute, le public va répondre Amen. Et donc, ça va faire une interprétation. Et l'autre. Donc, c'est dit à voix basse pour que le public ne puisse pas répondre Amen, pour qu'on puisse faire la Smirat Gola Yifila. Mais comme nos frères séfarades ne répondent pas Amen aux bénédictions du schéma, donc il n'y a pas de problème. Donc ils veulent le dire à voix haute pour qu'on sache que ça va commencer maintenant la Amida. Voilà, c'est tout. Bon. Mais si je dis nos frères séfarades et nos frères ashkénazes, alors c'est qui ça, nous? Si je dis nos frères séfarades et nos frères ashkénazes, alors qui c'est ça, nous? Mais non, c'est les Yéménites, tout simplement. Bon, laissons tomber pour l'instant. Alors, je reviens ici donc au problème de l'Ismor Gioula Litfila. D'où vient cette halakha? Comment est-ce que c'est arrivé que dans l'histoire, brusquement, on a dû coller l'un à l'autre? Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que il faut, quand on fait la prière, savoir à qui la prière est adressée. Il ne faut pas se tromper. Parce que si je me trompe, Hasbe Shalom, je fais de la Avoda Zara. Vaistor, ce qui veut dire que Dieu protège. Et, en arabe. Et en fait, ça veut dire que à l'époque du temple, si je demandais à n'importe qui sur terre, goy, juif, n'importe qui, je lui demandais, dis-moi, qui est le Dieu auquel les juifs s'adressent? La réponse sera, ben, les juifs s'adressent au Dieu qui a un temple à Jérusalem. C'est-à-dire, il y a une adresse. On sait vers qui s'est orienté. Et on sait d'ailleurs, par différents textes de la Guémara, que les Kohanim, les prêtres dans le Beth Amikdash, c'était eux qui connaissaient les secrets de la divinité. Donc, d'une certaine manière, la référence existait, elle était vécue. Il y avait une référence existentielle. On savait à qui la prière est adressée, à celui qui réside dans le temple de Jérusalem. Et puis, le temple est détruit. La référence disparaît. On ne sait plus à qui la prière est adressée. n'y a plus de lieu géographique. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste le passé et l'avenir. C'est-à-dire le présent n'existe plus. Mais nous adressons la prière à celui dont nous savons que dans le passé, il a sauvé Israël et que dans le futur, il le refera. C'est-à-dire c'est à partir de ce moment-là que la conscience juive devient une conscience historique qui est tendue entre le passé et l'avenir. N'est-ce pas? Donc, pour savoir à qui la prière est adressée, pour ne pas se tromper, on dit « Gaal Israël » et c'est à lui qu'on adresse la prière. Vous avez compris? Très bien. Alors jusque-là, ça va, c'est que je vais compliquer les choses maintenant. Alors s'il y a encore une question, il faut le faire maintenant. Oui? Quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, mais à l'époque du Beth Amikdash, c'est vrai qu'on savait que Dieu nous avait libérés d'Égypte et qu'il nous libérera un jour. Mais la vérité, ce n'était pas au centre de nos préoccupations. Le présent nous remplissait. C'est dans le présent, il y avait une présence. Ouais. Les miracles dans le Beth Amikdash, mais même sans les miracles, c'était ressenti comme tel. C'est-à-dire, j'allais au Beth Amikdash pour les fêtes de pèlerinage, j'allais rencontrer la face du Seigneur. C'est-à-dire, je savais à qui je m'adressais. Il était là pour me parler, même si je n'étais pas prophète. D'accord? Et puis, cette présence a disparu. La Shekhina est partie. Alors, il me reste un souvenir et une espérance. Hein? Non, il y a un souvenir pour tout le monde, parce que l'empreinte de ce qu'il y avait est restée. Comme disaient les autres, si la voix s'est tue, l'écho n'est pas tari. Ouais. C'est une phrase qui était imprimée sur la première page de la revue Targoum. La revue Targoum était une revue qui était publiée par l'école Gilbert Bloch d'Orsay dans les années 50. Manitou. Alors, il est probable que c'est Manitou qui a formulé cette phrase. C'est pas écrit dans le truc, mais enfin, c'est probablement lui qui l'a écrit. Bon, alors, revenons donc à nos moutons. Donc, on dit « Baruch ata Hashem Ga'al Israël » et on fait la prière. Et ça, c'est le matin. Mais pourquoi le matin? Pourquoi pas à Mincha, par exemple? À Mincha, on ne dit pas Gaal Israël. Bon, il n'y a pas de lecture du schéma, c'est vrai. Donc la référence à Mincha est problématique. Qu'est-ce qu'il en est du soir à Arvit? On fait Gaal Israël ou pas? On dit Gaal Israël, mais il y a un petit supplément, Ashkivenu, n'est-ce pas? Et puis après le petit supplément, le Ashkivenu, il y a un autre supplément, le Kaddish. Et si c'est Shabbat, vous avez Shamerou et tout ça. Bon. Alors donc, il semblerait que le soir, c'est plus problématique de faire Smicha Gioula Litfila, mais à Shaharit, ça va. Jusque-là, vous me suivez? Bon. Ah, justement, c'est ça que je me demande. Oui? La Gemara, elle ne parle pas du Kaddish. Ashkivenu, elle en parle. Mais ça, on va y arriver. Si nous avons le loisir d'arriver jusqu'au texte aujourd'hui, ça sera merveilleux. Sinon, Blineder, pour la prochaine fois, on photocopiera. Maintenant, ce que je me demande, c'est ça. L'événement Gaal Israël, dont nous parlons dans la bénédiction de Gaal Israël, c'est quel événement? La sortie d'Égypte. Petite question. À quelle heure de la journée s'est faite la sortie d'Égypte? Alors nous avons ici plusieurs réponses dans le public. Une première proposition, que ça s'est passé le matin, une autre, que ça s'est passé le soir, ils disent qu'il est à 10h30. Alors, il faudrait choisir. Effectivement, comment? Ah, comment? Ah, la mort des premiers-nés, c'était pendant la nuit. Et après, ils sont sortis. Mais à quelle heure ils sont sortis? Peut-être, mais... Oui, mais j'aimerais... Il y a un problème. C'est pas très clair dans le texte de la Torah, il y a différentes opinions. En tout cas, ce qu'il semble, c'est que déjà, la mort des premiers-nés, c'est déjà un début de libération, parce que le pharaon se lève pendant la nuit, il appelle Moshe et Aaron, il leur dit partez. Donc, en pleine nuit, il y a eu un moment de libération. L'ordre de partir. Mais, la sortie s'est passée le matin. Alors, pour savoir, comment considérer ce moment de libération? Vous voyez que ça commence à devenir problématique. Il y a ce qu'on appelle un début de libération, et il y a une libération pleine. Alors ça se dit en araméen, Athalta de Geoula, début de libération, et en hébreu, Geoula Shlema, Geoula complète. En araméen, Geoula Me'aliata, ça se dit. Et là se pose un problème de savoir à qui est le Dieu auquel je m'adresse. Il est le Dieu libérateur, mais à travers quel moment de la libération je le reconnais? À travers le début ou à travers l'achèvement? Alors c'est pour ça qu'il y a deux fois Gal Israël. Mais le tout problème, c'est pour, on fait deux fois Gal Israël par jour, parce qu'il y a la libération du soir et la libération du matin. Mais, quand moi je fais la prière, la Hamida, est-ce que je suis capable de connaître Dieu à travers la libération du soir, qui n'est qu'un début, ou est-ce que je ne peux le reconnaître qu'à travers la libération du matin, qui est un achèvement? Alors c'est ça le problème de la de l'Ismor Gula et Tfila à Arvit. Et là, je vais vous introduire un texte qui est très ardu, qui parle de ce problème. Est-ce qu'on fait la halakha de coller la bénédiction de Geoula au Shmoné Esrei le soir ou pas? C'est un texte de la Gemara. Vous comprenez que ça a des conséquences énormes. Parce que certains vous disent, il faut reconnaître que le Dieu d'Israël nous a libérés, qu'il se manifeste à nous à travers sa libération. D'autres te diront, oui, mais ce n'est qu'un début. Étant donné que ce n'est qu'un début, on ne peut rien en faire. Ça ne vaut rien, dit le vaurien. Et donc, tu pourrais savoir, est-ce qu'on fait le Hallel, par exemple, pour une libération dont on sait qu'elle n'est qu'un début, ou est-ce qu'il faut attendre que ce soit achevé? Et alors certains vous diront, mais on n'est pas vraiment sûr, on ne sait pas. Comment avoir la certitude? Quand le processus sera achevé, alors nous saurons que ça avait été sérieux. Mais tant que le processus n'est que enclenché, nous ne savons pas si c'est sérieux ou pas, si ça va arriver à une fin ou pas. D'où le problème de savoir si on fait la halakha de l'ismor geoula litfila le soir ou pas. Vous comprenez l'arrière-plan du débat halakhique? Souvent, on voit un débat de halakha dans la Gemara, on se dit, oui, bon, c'est un petit débat sur un problème rituel. Pas du tout. Le problème rituel a derrière lui toute une conception du monde. Hein? Bon.
Mais,
oui.
Vous n'attribuez pas la société, tout le monde n'attribue pas la société d'Égypte suite avant qu'il soit dévoilé.
Alors, c'est le problème. Est-ce que nos ancêtres, quand il y a eu l'ordre de Pharaon de sortir, c'était encore la nuit, c'était qu'un début, est-ce qu'ils ont fait le Hallel ou est-ce qu'ils ont attendu de sortir? Alors, c'est pas si simple que ça. Il y a un texte dans l'Yerushalmi qui dit que Pharaon leur a dit de faire le Hallel déjà le soir. Et que c'est la raison pour laquelle nous récitons le Hallel le soir du Seder.
Parce que Pharaon, lui, savait que c'était Dieu qui l'avait fait.
Oui, mais qu'est-ce que nous faisons dans les générations futures? Alors, parce que la Gemara, dans les Yerushalmi, a dit qu'ils n'ont chanté un cantique qu'après être sortis de la mer Rouge, parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Mais, pour les générations à venir, on fait le Hallel, pas le septième jour de Pessah, qui est le jour où on a passé la mer Rouge, mais on fait le Hallel le soir du Seder, qui est le moment où il y a eu la libération par Pharaon. Donc on voit qu'il y a quelque chose, une ambiguïté dans cette histoire. Vous avez compris? Bon. Eh bien, savoir. Maintenant, je voudrais avec vous rentrer dans le texte. Il n'est pas photocopié, hélas. Mais je vais essayer de le lire de manière que vous puissiez vous en rappeler. C'est dans Maseret Berachot, Daf Dalet Amud Bet, c'est-à-dire page 4b, quatrième folio, le côté verso, pas le côté recto. Voilà. Hein? Bon. Alors là, je commence le texte. C'est un texte un peu long. Hein? Bon. Alors, la Guimara dit que elle se pose la question, pourquoi est-ce que la Mishnah dit qu'il faut lire le schéma avant minuit? Alors qu'on pourrait avoir toute la nuit pour lire le schéma. Là, on nous dit, c'est pour qu'aider la riketa adam ina avera, pour que l'homme ne soit pas amené à pécher, parce qu'il risque de s'endormir, etc. Alors, les chachamim ont fixé une limite, il faut avoir lu le schéma avant minuit. Et là, on nous amène un texte d'une braïta. Chachamim asu siyar ledivrehem. Les sages ont fait une barrière pour renforcer leurs paroles. Kedeh, shelo yehe adam ba minasade ba'erev ve'omer, pour qu'un homme ne vienne pas des champs le soir et dise, elech leveti, je vais aller dans ma maison. Ve'ochal kima, ve'eshte kima, ve'ishan kima, pour manger un peu, boire un peu et dormir un peu. Ve'aharkar, et après seulement, ekra kiryat shema, je lirai le shema. Ve'etpalel, je ferai la amida. Ve'hotafto shena, et il est emporté par le sommeil. Ve'nimtsa yashen kol alayla, et qu'il dormirait ainsi toute la nuit. C'est ce qu'on veut éviter. Remarquez une chose. D'où vient un homme le soir, d'après la Mishnah?
Des champs.
Il vient pas du kollel. Il bosse quoi? Le soir, non, le soir il rentre à la maison. Mais il vient des champs. Ouais, il vient des champs. C'est-à-dire il n'est pas à étudier toute la journée. Hein? Oui, bien sûr, il revient des champs. Non, mais c'est-à-dire que on peut dire Yaakov, c'est quelque chose de spécial. Mais non, on voit que pour la Mishnah, c'est une évidence qu'on rentre des champs le soir. Bon. Venimtsa yashen kol alayla, et donc il risque de dormir toute la nuit. Aval, mais ce qui doit se passer, Adam baminasade ba'erev, un homme revient du champ le soir. Nichnas levet akneset, il doit rentrer dans la synagogue au lieu d'aller chez lui. Imragil likrot kore. Vimragil lishnot shone. S'il a l'habitude de lire la Bible, il la lit. S'il a l'habitude d'étudier la loi orale, il l'étudie. C'est-à-dire c'est soit Mikra, soit Mishnah. Petite remarque en passant, la Guémara ne sait pas qu'on n'a pas le droit de lire le Tanakh le soir. Oui, il y a une légende comme ça, hein, qui est qu'on n'a pas le droit de lire le Tanakh la nuit. Hein? Bien sûr, c'est une légende.
Pourquoi?
C'est d'après la Kabbalah. Mais la Kabbalah, c'est pas pour tout le monde. Quoi? Voilà. C'est-à-dire, les kabbalistes, eux, ils ne lisent pas le Tanakh le soir. Très bien. Mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non. On voit bien que la Guémara prend comme une chose banale que celui qui a l'habitude de lire la Bible, le soir, lit la Bible. Hein? Celui qui n'a pas l'habitude, il étudie la loi orale. Imragil likrot kore, imragil lishnot shone. Ve kore kiriyat shema. Et puis après, il lit le shema. Umit palel, il fait la amida. Veochel pito mevarer, il mange son pain et fait la bénédiction. Pito, c'est-à-dire son pain. Sa pitance, voilà. Oui, c'est vient de là-bas, d'ailleurs. Veochel aover adivre chachamim, et tout celui qui transgresse les paroles des sages, hayav mita, est coupable de mort. Ça, c'est le texte de la Mishnah. C'est le texte pas de la Mishnah, mais de la Braïta. Un texte de la Braïta. Alors, le Talmud demande, Maishna bechol tukta de la katane ha'avmita, ou Maishna acha de katane ha'avmita. Qu'est-ce qui s'est passé que, alors que dans tous les autres textes, on nous dit une halacha, on ne nous rajoute pas que celui qui la transgresse est coupable de mort, tandis que là, l'auteur a jugé nécessaire de nous faire peur. Iba itema mishum de ika ones shena. Alors, la première réponse, c'est parce que on a peur qu'il s'endorme. Alors on a voulu lui faire peur. Veiba et Tema, et si tu veux, c'est pour une autre raison. La pokem iman de Amar tfilat arvit reshut kalmasholan de Jehova, c'est pour exclure l'opinion selon laquelle la prière de arvit serait facultative. D'après ce texte, la prière de arvit est obligatoire. Oui, comment? Parce qu'il y a une marloquette à ce propos. Si la prière d'arvit est facultative ou obligatoire. N'est-ce pas? Quelle est la halakha? La halakha est que la prière d'arvit est facultative, mais qu'elle a été acceptée comme une obligation. C'est-à-dire c'est le peuple d'Israël qui a décidé de la prendre sur lui comme quelque chose d'obligatoire. Mais remarquez bien, si le facultatif concerne la Amida, ne concerne pas le schéma. Bon, Amar, bon, oui. Avant le troisième paragraphe du schéma, ça c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut faire le troisième paragraphe ou pas? Mais les deux premiers paragraphes, tout le monde est d'accord. Et la halakha, c'est qu'on fait les trois. D'accord? Ça, c'est le sujet d'une autre étude. Il faudra un jour qu'on étudie ce texte. N'est-ce pas? Bon, alors, Jusque-là, vous avez remarqué que dans le texte de la Braïta, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Bon. Vous avez remarqué dans le texte de la Braïta, c'est que on a dit que celui qui vient des champs doit rentrer à la synagogue, étudier la Torah, lire le schéma, ou mitpalel et faire la Hamida. Donc on voit que, d'après le texte de la Braïta, le schéma vient avant la Hamida. Vous êtes d'accord? Bon. Amar mor. Alors, il y a une analyse ici de la Gemara là-dessus. Kore kiriat shema ou mitpalel. On doit lire le schéma et après faire la tefila. Mais ça y est, aleh le Rabbi Yochanan. Ça va dans le sens de l'opinion de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yochanan? De Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan disait Eizehu ben haolam haba. Qui c'est qui est le fils du monde à venir? Ze asomer geoula litfila shel arvit. C'est celui qui accole la bénédiction de Geoula à la prière de Arvit. Vous avez remarqué? C'est-à-dire pour Rabbi Yochanan, c'est très important que ce que nous faisons le matin, nous le fassions également le soir. C'est-à-dire de faire Gaal Israël et après la Hamida. Ça veut dire, ah, problème, qu'est-ce qu'on fait avec Ashkiveno? Ça, c'est la question que pose la Gemara par la suite. Et le Kaddish, question qui est posée par les Tosfot. Comment ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, la question est bonne. Mais en tout cas, on voit que pour Rabbi Yochanan, la même chose qui est faite le matin, Baruch Atah Hashem Gaal Israël et après la Hamida, c'est la même chose le soir. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec Ashkiveno? Bonne question. Non seulement c'est une bonne question, mais la Gemara va poser la question par la suite. Bon. Maintenant, remarquez donc que pour Rabbi Yochanan, il reconnaît le Dieu d'Israël à travers les commencements de libération. C'est donc un sioniste. Pour lui, Akadosh Baruch Hu se manifeste, il est connu à travers l'événement de commencement. Qui c'est qui n'est pas d'accord avec lui? Rabbi Yehoshua ben Lévi. Rabbi Yehoshua ben Lévi Omer, mais Rabbi Yehoshua ben Lévi disait, Tefilot ba'emtsa tiknum, les prières ont été instituées au milieu. Vous avez compris? Non. C'est très simple. Pour Rabbi Yehoshua ben Lévi, le soir, il faut d'abord faire la Hamida et après seulement le schéma. Et donc, le Gaal Israël est éjecté bien loin de la Hamida. N'est-ce pas? Puisqu'on fait d'abord la Hamida, après on fait le schéma et on finit par Gaal Israël. Donc il ne peut pas y avoir de l'ismor qui ou la l'isfila. Hein? Le matin, oui. Le matin, il est d'accord. Mais c'est-à-dire que pour le matin, c'est au moment où la Géoula est évidente. Donc Rabbi Yehoshua ben Lévi reconnaît à Kadosh Baruch Hu à travers la fin du processus, pas par le début. Maintenant, c'est quoi les prières ont été instituées au milieu? Comment se passe la journée pour un juif d'après Rabbi Yehoshua ben Lévi? Ben, le matin, on fait le schéma. Après, on fait la Hamida de Shacharit, puis la Hamida de Mincha, puis la Hamida de Arvit, et après un schéma. Donc, les trois prières ont été instituées entre deux schémas. D'accord? C'est comme un khamsa, n'est-ce pas? Vous avez les trois doigts qui sont collés, et puis vous en avez deux qui dépassent comme ça, n'est-ce pas? Donc, quoi? Hein? La khamsa, c'est la khamsa. C'est le 5 comme ça des Nord-Africains. Il y a un bijou comme ça. Oui, c'est un truc fatimide à l'origine. La main de Fatima. Oui, ça vient des fatimides. Oui, c'est des gens qui avaient des opinions, ils n'étaient pas timides. Et donc, ils avaient leur symbole. Oui, 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 oui. Bon, mais je...
C'est des...
Alors, ce que dit ici, ça n'a aucune importance pour l'instant. Il y a des raisons à ça, mais peu importe pour l'instant. C'est vraiment en dehors de notre sujet. En tout cas, ce que ça veut dire, que pour Rabbi Yehoshua ben Lévi, les trois prières, sans interruption entre elles, entre Shacharit, Mincha et Arvit, sont au milieu de deux lectures du schéma. Vous avez compris? Donc c'est ce qu'il dit, Tefilot ba'emtsa tiknum. Les prières ont été instituées au milieu. Donc il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yehoshua ben Lévi a une option qu'on pourrait appeler Haredit, dans laquelle il considère que tant que le processus n'est pas achevé, je ne peux pas dire que je reconnais Akadosh Baruch Hu à travers le processus. Vous avez compris? Bon. Vous voyez donc, il y a ici des questions extrêmement importantes qui sont soulevées à travers un petit problème de rituel. Bemaï kamiflegé. Mais alors, qu'est-ce qui les divise? En quoi ils ne sont pas d'accord? Quelle est la raison de leur division? Souvent, quand il y a des débats entre rabbins, par exemple, entre maîtres, alors on se dit, la raison de leur divergence, c'est parce que il y en a un qui a vu un texte que l'autre n'a pas vu. Ou bien l'un a une réflexion que l'autre n'a pas eue. Mais, dans la réalité, on voit que c'est tout à fait faux. Tout le monde connaît les textes. Et tout le monde connaît les réflexions. Et pourtant, la conclusion est différente. C'est la question que pose la Guémara par la suite. Oui ? Alors, on va voir, est-ce que c'est des façons différentes de réfléchir ou est-ce que c'est la même réflexion ? C'est ça la question que se pose la Guémara. Bemaï kami palgé, quelle est la raison de leur division ? Iba'it eima, si tu veux, tu peux dire kra. Kra, ça veut dire qu'ils ont un verset. Chacun a un verset qu'il a interprété d'une autre manière. Iba'it eima, svara. Et si tu veux, on peut dire que c'est une réflexion. Alors commençons par la réflexion. Iba'it eima svara. De Rabbi Yochanan savar, car Rabbi Yochanan pensait Geoula me'orta namehave, Ela geoula me'aliata lahavia ela adzafra. C'est dit dans un pur araméen. Je reprends. Rabbi Yochanan disait comme ça, Savar, Geoula me'orta namehave, Ela geoula me'aliata lahavia ela adzafra. C'est-à-dire, la geoula a commencé déjà le soir, mais elle n'est complétée que le matin. Donc comme elle a commencé le soir, donc elle a commencé. Rabbi Yoshua ben Levi, ça va, tandis que Rabbi Yoshua ben Levi, il pense, que van de la havia et la mitzafra, la havia geula me'aliata. Étant donné qu'elle n'est complète que le matin, c'est donc une geula incomplète le soir. Et alors? Ils ont dit la même chose. C'est-à-dire que si Rabbi Yochanan dit, tu vois bien que ça a commencé. Et qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Yoshua ben Levi? Tu vois bien que ça n'a fait que commencer. Donc tous les deux sont d'accord. Il y a un commencement et une fin. Mais l'un dit, ça a commencé, donc c'est important. L'autre dit, ça a fait que commencer, donc je ne peux rien dire. Maintenant, bon, c'est très joli ça, mais vous avez remarqué, comment est-ce que Rabbi Yochanan a dit son halakha? Rabbi Yochanan, il aurait dû dire, moi si j'avais été à sa place, j'aurais dit, la halakha est qu'il faut accoler la geoula à la tefila le soir. Point. C'est pas comme ça que c'est dit. Rabbi Yochanan, il nous dit, Ezeu ben haolam haba, qui c'est qui appartient au olam haba? C'est celui qui fait la geoula, les sommaires geoula des tefila chez l'arvit. C'est un peu agressif, ça. Ça veut dire que Rabbi Yoshua ben Levi sont en Olam Haba, d'après Rabbi Yochanan. Wallo, il n'a pas. Il a perdu son Olam Haba, Rabbi Yoshua ben Levi, pour Rabbi Yochanan, parce qu'il n'est pas d'accord sur une question de la Tralta des Geoula. Un peu énorme, non? Mais en tout cas, on va devoir comprendre, mais ça veut dire que c'est un sujet fondamental. Si le Olam Haba en dépend, c'est que c'est un sujet fondamental. Vous avez compris pour l'instant? Oui. Maintenant, je voudrais vous donner un début de réponse à ça. Rabbi Yoshua ben Levi, non, Rabbi Yochanan, il n'a pas dit que Rabbi Yoshua ben Levi n'a pas sa part au Olam Haba. Comment est-ce qu'on dit quelqu'un a une part au Olam Haba? Ça se dit comment? Helek la Olam Haba. Il a une part au monde à venir. Mais l'expression qui est employée ici, c'est pas ça. C'est Ezeu ben Olam Haba. Qui est-ce qui est fils du monde à venir? Vous avez donc deux manières de comprendre le Olam Haba. La Mishnah nous dit, Kol Israël, Yeshlaem, Chelek, Olam Haba. Tout Israël a part à Olam Haba. Donc tout le monde est là. Rabbi Yoshua ben Levi aussi, puisqu'il est juif. Donc il a sa part à Olam Haba, il n'y a pas de problème. Le problème, est-ce qu'il est fils du Olam Haba? Fils d'eux. Justement, on va comprendre ce que ça veut dire. En hébreu, quand je dis je suis le fils d'eux, ça veut dire que je suis un ressortissant. Par exemple, si je suis un citoyen de Jérusalem, je dirais Ani ben Yerushalayim. Mais alors, qu'est-ce que je fais à Tel Aviv? Ah ben, je suis en visite. J'ai mon Helek. Et donc, pour savoir, est-ce qu'on a une appartenance naturelle au Olam Hazé ou une appartenance naturelle au Olam Haba? Quand on a une appartenance naturelle au Olam Hazé, alors, on nous dit, voilà, ben, je suis un ben haolam hazé, je suis un fils de ce monde. Et qu'est-ce que tu feras quand tu quitteras ce monde? Ah ben, j'ai mon chélek là-bas. J'ai mon pied à terre dans le haolam haba, j'ai acheté, quand ce n'était pas encore très cher. Et voilà, j'ai donc où être quand j'arriverai au haolam haba. Mais en vérité, je me sens bien chez moi, ici, dans le haolam hazé. Par contre, il y a ceux qui sont dans le haolam hazé en visiteurs. On est là parce que on est de passage dans le haolam hazé. Je suis un, j'ai mon chélek là au haolam hazé. Oui, mais alors, où est-ce que tu te sens à l'aise? Ben, moi, je suis un ben haolam haba. Je suis fils du haolam haba. Une appartenance naturelle. Et donc, ce sont deux manières d'être. Il y a celui qui respire naturellement l'air du haolam haba et celui qui respire naturellement l'air du haolam hazé. Oui.
C'est plus.
J'ai compris. D'accord. Donc c'est peut-être plus rentable d'être ben haolam hazé. Maintenant, quelqu'un, disons qui appartient au haolam haba, comme Rabbi Yochanan, quand il voit que quelque chose commence à s'accomplir, il identifie immédiatement si c'est authentique ou pas. Il sait si ça appartient à l'avenir ou pas. Donc dès que le processus de la Géoula commence, il te dit, ah, voilà, c'est authentique, je sais que c'est ça. Mais celui qui appartient au Olam Hazé, il est dans le doute, comme Rabbi Yehoshua ben Lévi. Tant que ça ne sera pas achevé, il ne pourra pas savoir si c'est sérieux ou pas. Par exemple, il y a dans la Gemara, dans le traité de Ta'anit, il y a tout un passage sur l'histoire des Bnei Olam Haba. On nous raconte là-bas l'histoire d'un rabbin qui s'appelait Rabbi Baroka. Rabbi Baroka. Ahoua de Rav Salah Hasida, le frère de Rav Salah le Hasid. Donc le Rabbi Baroka en question, c'était quelqu'un de grand. Il avait des révélations de Eliyahu Hanavi dans la rue. C'est pas si simple. En pleine rue, comme ça, dans une foule, brusquement, pip, il a Eliyahu Hanavi qui lui apparaît. Très fort, n'est-ce pas? Et la Guémara nous dit qu'il demande à Eliyahu Hanavi, dis-moi, est-ce qu'il y a dans cette rue quelqu'un qui est Bar Alma Deate, Ben Haolam Haba? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond à cette définition? Réponse d'Eliyahu Hanavi, non. Y compris, exactement, le Rabbi Baroka en question, bien embêté, il n'est pas Ben Haolam Haba. Comment? Eliyahu Hanavi, il n'est pas vraiment parmi les humains. Alors, après, la Guémara dit qu'il dit, ah, tu vois, ces deux-là qui viennent de rentrer dans la rue, tu la connais, hein? Très bien, très bien. Alors, ce sont des Bnei Haolam Haba. Alors, que fait Rabbi Baroka? Il se précipite en leur direction, il leur demande, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et ils répondent, nous sommes des plaisantins. Nous passons de ville en ville pour faire rire ceux qui sont tristes. Voilà. C'est des rigolos. Des comiques. Des comiques. Et donc, quoi qu'il y ait encore. Bon. Et ils sont capables. Et la Guémara dit, ce sont eux des Bnei Haolam Haba. Vous savez pourquoi? Parce que le Haolam Hazé, si vous regardez, c'est pas drôle. Souvent, les gens pensent que la vie est drôle, mais c'est pas vrai, la vie n'est pas drôle. La vie est triste. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui rigolent? Alors il peut y avoir deux raisons à cela. Il y a une raison qui est parce que les gens sont cyniques. Ils disent, on s'en fiche pas mal. Mais ça, c'est de la cruauté. Et d'autres qui vous disent, non, je ris parce que je vois quel est l'avenir. Je vois vers quoi ça va. Donc il voit déjà la fin. Donc il est capable de rire. C'est un ben haolam haba, oui. C'est pas vrai. Ça c'est cruel. Bien sûr, on se lève le matin, les oiseaux piaillent, le soleil est bon, etc. Et on dit, ah, que la vie est belle. Tu as lu les journaux seulement? Tu comprends? C'est-à-dire, quand tu lis le journal, tu dis, mais c'est un enfer ce monde. Oui.
Surtout en Israël, si tu veux bien vivre en Israël, ne lis pas les journaux.
Oui, d'accord, mais là, on fait abstraction du monde. Il y a une urgence dans le monde est en catastrophe, il faut absolument le transformer, oui.
Mais si quelqu'un de pessimiste, ça veut dire qu'il ne rigolera jamais.
Si, il peut rigoler s'il voit l'avenir.
Oui, il est pessimiste.
C'est-à-dire, être pessimiste, c'est un manque de émouna. Ne pas être, si on est pessimiste, c'est qu'on n'a pas la émouna. C'est très grave. Les optimistes pensent que nous sommes dans le meilleur monde possible. Et les pessimistes disent que c'est vrai. Oui ? Comment ? Il faut bien savoir, pourquoi est-ce que les gens sont pessimistes ? C'est une bonne question. Parce que la Torah dit que Dieu a vu tout ce qu'il a créé et que c'était bon. Alors d'où ça vient que on peut penser que ça va mal ? On verra bien. Comment ? Comment ça se fait qu'on ne le voit pas ? Et ça, on le verra dans notre étude de Bereshit. Vous savez qu'on étudie Bereshit ici tous les lundis ?
Ah oui ?
Oui. Alors, mais l'inéder, on arrivera à ça aussi. Bon. On avance, oui. Bon, alors, je reviens sur le sujet. Donc, Rabbi Yochanan, il dit, être capable de voir dans le début du processus de libération que c'est authentique, il faut être pour ça être amen à Olam Haba. C'est pour ça que la Halakha, quand il la formule, il dit, « Ezevu ben à Olam Haba, ze asomer gula et tfila
bervit. » C'est-à-dire qu'en gros, c'est dans la simcha, si on voit le...
Quand on voit l'état d'Israël, il y a la joie. J'entends parfois des discours rabbiniques qui me font frémir. Tel que par exemple, on dit « Ah, Moraï Verabotai, notre génération qui est plongée dans l'obscurité, tout va tellement mal. Où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé quelque chose ?» Dans l'étude de la Torah, Moraï Verabotai, faites un peu de tzedaka, vous irez. Ce genre de discours, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie ? Oui, c'est hérésia. Tout simplement, pour une raison très simple, c'est que nous sommes à une époque où tout est rempli de lumière. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu nous a accompli les promesses qu'il a faites aux prophètes. Il nous a ramenés sur notre terre. Il nous a fait sortir d'un exil de 2000 ans, il nous a ramenés. Et toi, tu dis que la face de Dieu est cachée ? C'est un blasphème, une chose pareille. C'est un manque de... Ça s'appelle de l'ingratitude. Or, c'était quoi le péché du premier homme ? L'ingratitude, quand il a dit « c'est ma femme qui a fait, la femme que tu m'as donnée ». Oui, l'ingratitude est le pire des péchés. Ne pas reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu a révélé sa face de nos jours, c'est énorme. Bon, revenons à notre sujet. Donc, je reprends ici pour Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi. « Vibaitema kra » Mais si tu veux, ils ont également un verset qui les divise. C'est quoi le verset ? Il dit « Ushnehem mikra echad darshu » Ils ont interprété le même verset. C'est-à-dire que c'est les mêmes sources qui sont interprétées de manière différente. « Dirtil » car il est écrit « Beshor becha uvkumecha » Lors de ton coucher et lors de ton lever. Rabbi Yochanan Savar Makish Shirva Shriva Lekima. Rabbi Yochanan dit que le texte a pour intention de faire ressembler le coucher au lever. Makima Kriyachma Vachakar Tefila, Afshechiva Name Kriyachma Vachakar Tefila. De même que le matin, on a d'abord fait le schéma et après on a fait la tefila, de même le soir, on doit faire d'abord le schéma et après la tefila. Rabbi Yoshua Ben Levi Savar Makish Shriva Lekima. Et Rabbi Yoshua Ben Levi dit non, ça vient faire ressembler le coucher au lever. De même que le matin, tu as fait le schéma au sortir du lit, sans qu'il y ait interruption de prière entre les deux. De même le soir, le schéma doit être avant le lit, sans qu'il y ait de prière au milieu. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord que le matin et le soir se ressemblent, puisqu'il est écrit Béchar Brav Gomera, mais je voudrais savoir de quelle manière ils vont se ressembler. Oui, alors ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'en fait, les mêmes textes sont interprétés, mais de manière diamétralement opposée. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas le texte qui a entraîné l'opinion, mais que c'est la neshama qui a entraîné l'opinion. C'est-à-dire si j'ai une appartenance naturelle au Olam Haba ou pas. Alors la question qui se pose, demande à Gemara, oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais de Hashkive, non ? La question que vous avez posée. Mativ Marie Berderavina, Mar Berderavina demande. La Mishnah nous dit qu'il y a deux bénédictions qu'il faut faire après le schéma, c'est-à-dire également Ashkivenu. Si tu dis qu'il faut coller l'un à l'autre, il ne peut pas coller la Geoula à la prière. Pourquoi ? Car il veut dire Ashkivenu. Amre, on a répondu. Étant donné qu'on a, les Chachamim ont institué Ashkivenu, c'est comme une longue bénédiction de Geoula. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on fait Ashkivenu ? À cause des nuisances, n'est-ce pas, de la nuit. Ça veut dire que quand la Géoula ne fait que commencer, elle est associée à des nuisances. Donc il y a des nuisances. Il y a Ahmadinejad, il y a le terrorisme, etc. Ça existe. Ça veut dire que ça fait partie de la Géoula. Dilat emari, parce que si tu ne dis pas comme ça, Shacharit echematze samir. Le matin aussi, on a le problème. Pourquoi? Puisqu'il faut d'abord faire le verset de Hachem Sefatay Tiftar. Et là, Hatamna, mais Kevin dit Takin Murabana de Memar Hachem Sefatay Tiftar, qui fait la Rita Damia. De même, là-bas, tu dis que tandis que le Chachamim ont institué de dire Hachem Sefatay Tiftar, c'est comme si la prière était allongée vers l'arrière. Achadam et Kevin Takin Murabana de Memar Ashkivenu, qui fait la Rita Damia. De même, les Chachamim ont institué de dire Ashkivenu, ça fait donc comme une Geoula longue. Ça veut donc dire que le soir, nous avons une prière de Gal Israël, un peu allongée. On rajoute Ashkivenu, parce que nous savons que quand la Géoula ne fait que commencer, il y a quand même des nuisances. D'accord? Vous avez compris? Bon, voilà. Donc, ce que nous avons en tout cas ressorti de ce texte, c'est que Hachem Sefadai Tiftar, c'est quelque chose d'indispensable pour la prière. Mais je ne sais pas encore pourquoi. Oui? Quoi, sur Ashkivenu? La Gemara dit que Ashkivenu n'est pas une interruption entre Gad Israël et la prière, parce que c'est Geoula Arichta, c'est une longue Geoula. Or, Ashkivenu a été institué à cause des nuisances de la nuit. Ce qui veut donc dire que la Geoula du soir, celle qui n'est qu'un commencement, est associée à des nuisances. C'est celle quand Pharaon a dit qu'on pouvait sortir, mais qu'on n'était pas encore sorti. Voilà. Voilà. Quoi? Ah, le Kaddish. La question est posée par les Tosfot. Et les Tosfot répondent que pourquoi est-ce qu'il y a le Kaddish? Parce que nous considérons que la prière de Arvit, elle est facultative et que celle de le Kriyat Shema est obligatoire. Donc pour faire la différence entre l'obligatoire et le facultatif, on fait le Kaddish. Tandis que ce texte de la Gemara est basé sur l'opinion selon laquelle la prière aussi est obligatoire. Donc il n'y a pas de Kaddish à faire. Quoi? On fait Kaddish pour faire la différence entre Ashrei et la prière. C'est tout pour aujourd'hui.